This is a serious broadcast with Zany. Now, my computer friend Sirius is here to help me. Now, please remember that computers work on a binary system, and they have no imagination. Now, for instance, well, Sirius could not ever put together a budget like Mr. George Bush's budget, which is based almost entirely on imagination. Oh, do you want to know something very strange? I think that our inflation here is running at only 8%, and they already have inflation as high as 500% in some parts of Eastern Europe.
That is indeed very strange. The system seems to be working better for them already than for you.
No, high inflation is a sign that the system is in trouble. It's overheating or it's stagflating or something. The situation is very dangerous. We have to think of some way of saving the system. What can be done?
It is not easy to save the system. However, I suggest that the British and American trade unions that sent money to Solidarity in Poland during the hard days when the union was illegal could now send them belts to tighten while they learn about closed down mines and factories, bankruptcy, asset strippers, high rents, unemployment, inflation.
Oh, that is a kindly bit of advice. If you have any belts out there, yes, you listeners, that you would care to contribute, please send them directly to Lech Walesa for distribution. At least that way, when the people are told to tighten their belts, they will have a belt to tighten, while the profits flow out of the country. You know, I've been looking very carefully at President George Bush's proposals for disarmament. He asked for even more money for all the big strategic arms programs. Mr. Bush wants 5 B-2 stealth bombers that cost $5.5 billion. Two of those stealths help to conquer Panama.
$5.5 billion is not so much, hardly enough to feather a hawk's nest.
And $4.4 billion for strategic defense initiative, and something like $3 billion for old MX missiles on 7 railway cars. Well, and then there's a little bit left over for Midget Man as well. And here it says, oh, please see page 8. Oh, where's page 8? I've lost page 8.
I have it there. Guess how it is all to be paid for, Zany.
Oh, they're going to raise taxes after all.
Wrong. Mr. Bush says it will all be paid for by a healthier economy. Zany, I think we must get a subscription to the Wall Street Journal for Mr. Bush. He is very confused about the economic outlook.
Well, I'll ask Radio Zone if they can send Mr. Bush a gift subscription. You know, sometimes they give a reduction on gift subscriptions. You get them a little cheaper that way. And it would be a very kinder and gentler thing to do. You know, the whole budget is getting a lot of criticism. The newspapers are saying that the budget has not produced any real economies. They say that the administration has just hired bookkeepers to juggle the figures.
Ah, yes, bookies, I know. Like at the horse races.
No, not bookies, bookkeepers. There's a big difference. It has nothing to do with horses. You see, people bet on horses, but nobody is going to bet on that budget. Well, in spite of all of this disarmament talk, there will be no peace dividend.
There won't be any peace either. Disarmament experts do not seem to like disarming.
Oh, well, no. Well, yes, I mean, yes. Well, maybe. Maybe. Anyway, I think they might like disarming, but not under these circumstances. Well, perhaps, step by step, or a little at a time, or maybe after the Eastern European landscape solidifies.
After the landscape solidifies? What does that mean?
Well, frankly, I don't know, frankly. I just read it in the newspaper and I thought it sounded sort of expert, so I just said it. Well, anyway, I believe that they sincerely believe in disarmament, but maybe for much later on. Anyway, not for now.
There's some confusion. To me, it does not sound like disarmament at all. It sounds like dying and going to heaven. It is always a good idea, but never for right now.
Well, yes, it's a little similar to going to heaven. Heaven can wait, and so can disarmament.
Excuse me, Zing. There's a big difference. Death is inevitable, and disarmament is not.
The United States is going to disarm and economize at the same time. It's going to reduce its troops or forces or whatever all over the world.
Troops and forces are people. And you say that United States will not reduce its weapon systems.
That's right. It will just retire a few old systems and replace them with more effective and more efficient and expensive new systems. So far, all of the economies proposed will be made by reducing the number of people.
There's an important error being made here. Perhaps they will be very alarmed when they find out that they are not disarming. They are rearming and unmanning.
Mr. Dick Cheney, the Secretary of Defense of the United States, is very keen on unmanning. What he wants an automated, robotized, high-technology, computerized army that is less dependent on manpower.
In that he's entirely correct. A machine is much more reliable than as a fighting unit than a man. Machines obey orders without question.
Well, soldiers usually do too, unfortunately.
Machines don't get nervous when they fire on civilian targets.
Soldiers don't either, I am sorry to say. Take a look at those proud heroes returning from Panama. They weren't the least bit nervous.
Of course, the best kind of war is a war with machines on your side and civilians on their side. Another advantage is that machines don't get sick.
Oh, of course they do. Even computers crash.
Yeah, but when computers crash, they don't leave widows, orphans, or aged parents. This is a regrettable and costly tendency in people. I am sure that high-tech automated and programmed non-people will constitute a fighting force that the Pentagon can trust.
Oh, there'll be a large increase in spending for expensive strategic programs. You see, soldiers cost money, but expensive strategic weapons systems make money.
That is a very sure way of providing an economic incentive for the rich. Then they will have more and more money and need more and more tax relief. The system works perfectly.
Well, there's even some talk that the outdated weapons systems could be sold off to the newly emerging democratic Eastern European countries if they leave the Warsaw Bloc.
It's too bad that those poor countries will have to have so many outdated armed people. It will make it harder for them to kill civilians, as they are clearly intended to do.
Oh, they are not clearly intended to kill civilians. Well, at least not until the civilians have a uniform on.
Killing civilians is a good deed. There are too many civilians on the planet. Mr. Bush agrees with me. He refuses money for women's clinics and gives it to weapon systems. Of course, that is because he thinks that killing people is more efficient for population control than birth control. It is surely more reliable.
Well, you know, perhaps you are right. Well, he certainly doesn't believe in the right to life for people who get officially shot in wars or killed with hunting rifles. It's very sad and it's very bad.
Then why don't they stop it?
Well, you have to understand, we just can't stop those things from one day to another. You see, there used to be NATO on one side and the Warsaw Pact on the other side, and they were enemies. So they each knew what the score was.
In other words, the problem was well defined.
Well, yes, or at least they knew who they were arming against, even if they didn't know what they were arming for.
Now that's gone. What is happening now?
Well, you see, there used to be an East and a West almost everything, but particularly an East and a West Germany. Well, actually, there still is. But it doesn't work anymore. The border between these two Germanies is a very sensitive border for NATO.
That is a problem. A united fatherland will destroy this happy equilibrium. I am sure that NATO is against that.
Oh, NATO is against it. But it doesn't quite know what to do about it. Mr. Kohl, the Chancellor of West Germany, Mr. Bush, Mrs. Thatcher, and NATO want NATO to maintain a strong posture. But Mr. Modrow, who used to be a communist or something and who is the president pro tem of East Germany, would like to see the confronting blocs disappear. He would like a neutral Germany. Well, the Western leaders and NATO simply hate the idea of a neutral Germany. Well, all of this has something to do with a strong defense posture.
I see a problem. They have lost their enemy. Don't worry. I think NATO should just keep up with the strong defense posture. They will find an enemy sooner or later, even if they have to create one.
They all say that neutrality would destabilize Europe.
Is that a fact? In that case, they must surely be saying that they want to have two enemy blocs armed with expensive weapons and nuclear missiles to maintain stability.
Well, actually, they don't come right out and say it that way. Well, I don't really know what they are saying, but that's not it. That's not it. For instance, the United States says, a neutral Germany runs counter to the U.S. stand, which specifies that, in exercising their right to self-determination, Germans are to remain tied firmly to the West through membership in NATO.
Excuse me, does the United States say that they must be tied firmly and at the same time say that they can exercise their right to self-determination? Zany, this is nonsense. You have made a mistake.
Oh, no, I haven't. I've got it right. That's what they say.
Then they've got it wrong. If Germany is firmly tied, it cannot exercise any rights. If it is firmly tied first, what is there left for it to determine?
Yes. Well, it is self-contradictory, isn't it? But fortunately, well, that's not the only idea they've had. Well, another idea is that only the part that is now West Germany will have to be firmly tied to NATO, and the part that is now East Germany, it must not be neutral. It should be demilitarized, and then the West could make use of the cheap labor of the East Germans.
Now I finally understand what they want. Instead of having an East and West Germany, they will have a rich and a poor Germany. Does East Germany know about this?
Well, I don't think they've been told about it quite in that way.
Don't worry, they'll find out. This isn't the kind of things that can be kept secret very long.
Well, frankly, oh no, that plan doesn't sound very attractive either. Well, they've had another idea, though. Maybe it's better. They thought of letting the Soviets keep some arms or bases or something in Eastern Germany, even if the two Germanies are united, to be a sort of decoy, you know, so that NATO would have something to shoot at with nuclear weapons that are stationed in West Germany.
Very good. I understand. Then the Soviets would be like clay ducks in a shooting gallery, but easier to hit.
Yes, that's exactly the idea. The only trouble is that progress toward unification is likely to step up resistance to nuclear weapons, especially if the Soviet Union has to remove its missiles from Eastern Europe. Experts say that.
That is a very big trouble. And again, it is caused by civilians, resisting civilians, as a matter of fact. That is the worst kind. Democracy is always causing a lot of trouble to NATO. Do you remember what Gorbachev said years ago? He said that he was going to deprive the West of its enemy.
Oh, I don't believe for a minute that he intended to do it this way. Yes, but that's the way it is. Britain and France are now afraid of the disarmament race.
How extraordinary. They're afraid of a disarmament race, but not an armament race. They obviously prefer an armament race. They obviously prefer expensive weapon systems and enemies that remain enemies and do not change and become poor relations.
Oh, well, now we're going to talk about the East-West German economy. It says here, West German technology could make East German products much more competitive.
That's good. Who are they going to compete with?
Oh my, well, I'm sorry you mentioned that. That is not to say that the market will be easy for the Germans or for anyone else.
Then what's the use of making it more competitive? Why don't they just clean up the environment and do something, somebody some good?
Well, the Eastern Europeans are getting a lot of quick buck advice on how to get a white stretch limousine. Harvard economists, Washington think tanks, bankers, and private consultants are all rushing over to tell them what to do to get very, very rich.
All of them?
Oh, certainly not all of them. There will be winners and losers. That is the wonderful way that the market economy works. It makes a lot of mistakes along the way, but you must have faith. In the long run, it makes all the right choices, and it chooses who will be poor and who will be rich.
I understand. The rich are the new chosen people, but they are chosen by the free market economy instead of by God. Do the Israelis know about the new chosen people?
Well, even if they don't, everybody else does.
Now, at last, I understand. The free market is the only way to choose who gets the red stretch limousines and who gets to piss against the fenders.
That's it. So thank you, Sirius.
And thank you, Zany.
And thank you, Radio Zone.
Maintenant, le gouvernement dit que les gens peuvent quand même y vivre. Mais les gens y vivent quand même parce qu'il n'y a pas de solution alternative qui leur soit proposée. Ils vivent illégalement, ils se cachent aux yeux des autres parce qu'on risque de les punir. Ils n'ont pas reçu de permission spéciale de Moscou pour pénétrer de nouveau dans la zone. Il y a des millions de gens qui continuent à vivre dans des régions alors que le gouvernement lui-même dit que ces régions sont radioactives. Il y a des problèmes économiques en Union soviétique. Et c'est pour cela qu'il n'y a quasiment pas d'aliments sains qui peuvent leur être donnés. Cela veut dire que les gens mangent ce qu'ils produisent sur le sol pollué. Ils reçoivent des petites sommes pour acheter des produits sains, mais c'est quasiment impossible à acheter dans ces régions-là. Et c'est vraiment un problème aussi pour le personnel qualifié, le personnel médical. Parce que juste après l'accident, des médecins sont venus. Parce qu'ils ont compris que c'était dangereux dans ces territoires. Et maintenant, c'est difficile de demander aux médecins de venir vivre là pour aider cette population. Les médecins comprennent bien quels sont les dangers quand on vit dans ces régions-là. Ils ne veulent pas y vivre. Il faut encourager les gens à venir vivre là. Alors maintenant, on envisage de leur payer un double salaire pour qu'ils s'installent là-bas. Mais c'est une mauvaise décision. Les gens ne comprennent pas le danger de la situation. Et ils vont habiter là-bas simplement parce qu'on leur donne un double salaire, mais leur santé ne fait que s'affaiblir. Et toutes les conséquences de ces centrales sont de plus en plus évidentes. Il suffit de regarder les statistiques. Les enfants ont des maladies parce qu'ils vivent dans cette zone contaminée. Et il y a toutes sortes de maladies qui touchent les enfants. Certaines statistiques sont vraiment horrifiantes. Il y a 10 fois plus de maladies de la glande thyroïdienne pour les enfants qui vivent dans ces régions. Ils ont tous des problèmes de thyroïde. Depuis 86, il y a 8 fois plus d'enfants anémiques. Et il y a aussi énormément d'enfants prématurés, beaucoup plus qu'avant. 70% des enfants qui sont nés prématurés meurent dans les premières semaines de leur existence. Ce sont les maternités qui fournissent ces statistiques d'une petite ville à 5 km de Tchernobyl. La pollution radioactive est à l'évidence très mauvaise pour le système humain et la résistance des corps à différentes infections. Des enfants sont nés avec toutes sortes d'anomalies. D'après les chiffres qui nous sont fournis, les catégories de population les plus touchées sont les enfants, les femmes, jeunes, c'est-à-dire des femmes qui peuvent encore enfanter. Évidemment, il s'agit de données préliminaires. On ne connaît pas toutes les conséquences qui peuvent apparaître dans la région. On peut craindre que dans quelques années, les chiffres seront encore plus terrifiants, à moins que l'on fasse quelque chose pour aider ces gens. Troisième série de problèmes après Tchernobyl. C'est qu'il y a 2 réacteurs qui fonctionnent encore avec du personnel qui travaille quotidiennement sur place. Il y a 2 ans, le gouvernement d'Ukraine a décidé de fermer la centrale de Tchernobyl, mais le ministère de l'Énergie a pensé que la décision était incorrecte et a décidé de poursuivre le travail à Tchernobyl. Après l'accident, tout le personnel de la centrale a été changé. De nouvelles personnes sont venues travailler sur place en venant du centre de la Russie, là où le niveau de vie est plus faible qu'en Ukraine. Et maintenant, ils habitent à 40 km de la centrale, dans des endroits vraiment très pollués. Et on les paye 3 fois plus que le salaire normal. Et ils veulent continuer à travailler dans les centrales, même s'ils risquent leur santé et leur vie en travaillant dans ces régions. À cause du rayonnement très élevé sur le lieu de travail. Enfin, des centaines de milliers de personnes, notamment des soldats, ont participé au nettoyage de la centrale de Tchernobyl juste après l'accident. La plupart d'entre eux ne comprenaient pas les dangers réels et n'avaient pas été protégés. Ils n'avaient même pas de combinaison de protection. Avec leurs propres mains, ils enlevaient le graphite radioactif parce que les machines qui ont été envoyées dans la région qui étaient prévues pour aider à enlever le rayonnement Eh bien, ces machines elles-mêmes ne fonctionnaient pas parce que la quantité de radioactivité était trop élevée. Maintenant, ces gens ont des tas de problèmes de santé. La plupart sont morts. Les autres ont beaucoup de problèmes, car personne chez nous ne leur dit qu'ils sont malades, qu'ils sont invalides, tout simplement parce qu'ils ont participé au nettoyage de la centrale juste après l'accident. Et on ne fait pas de lien entre leur mauvaise santé et les événements d'il y a 5 ans. La loi, si elle reconnaissait qu'ils sont malades à cause de Tchernobyl, eh bien, il faudrait les dédommager énormément. Et la plupart d'entre eux font des grèves de la faim dans les hôpitaux où ils passent le plus clair de leur temps. Mais leur situation est vraiment très complexe. Le problème est d'autant plus aigu que leurs enfants sont très malades aussi et il n'y a guère de possibilité d'avoir des enfants sains depuis Tchernobyl. Et puis, les gens ne vivent pas à Kiev, ils vivent loin de Kiev. C'était des soldats venus de différentes régions de l'Union soviétique et c'est très difficile pour eux de s'unir parce que notre pays est immense et il est très difficile d'organiser la lutte pour les droits. En avril, cela fera 5 ans que la catastrophe s'est produite. Notre organisation et la Croix-Rouge d'Ukraine, avec le conseil municipal de Kiev, ainsi que des organisations de Verts d'Ukraine, envisagent à Kiev différentes manifestations. Le but étant d'attirer l'attention internationale, l'attention de l'opinion publique de notre pays sur le problème de Tchernobyl qui existe toujours. Juste après l'accident, dans tous les pays d'Europe, il y a eu des manifestations contre l'usage du nucléaire. Et cela a eu des résultats positifs en Europe. Mais maintenant, les gens commencent à oublier ce qui s'est passé il y a 5 ans. Et quelquefois, il faut une catastrophe pour que les gens comprennent le danger. Nous ne voulons plus de nouvelles tragédies, mais nous voulons que les gens se souviennent de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Il faut dire que les conséquences de Tchernobyl deviennent de plus en plus évidentes et sont pires qu'il y a 5 ans.
It will be great concert requiem on the central square of Kiev. Then it will be political round table with the participation.
Il y aura des tables rondes à Kiev avec des parlementaires qui interviendront, des représentants des ONG d'Ukraine et d'ailleurs à l'étranger si possible. Il y aura des scientifiques qui se pencheront sur les problèmes médicaux, les conséquences de Tchernobyl et ils essaieront de trouver une solution pour les gens qui souffrent vraiment. Ensuite, il y aura une exposition d'œuvres d'art faites par les enfants qui ont pâti de Tchernobyl. La centrale de Tchernobyl pour parler au directeur de cette centrale et sauront ce qui se passe à Tchernobyl maintenant. Les œuvres d'art ont déjà été montrées en Finlande, à Finlandia Hall, lors de la conférence internationale sur l'influence des faibles rayonnements nucléaires sur le corps. C'était un véritable succès. Et ce sera là l'essentiel de la manifestation du mois d'avril. Ce sera le 25 avril au soir. Nous invitons les meilleurs acteurs d'Union soviétique et nous invitons aussi des troupes étrangères pour attirer l'attention des médias, de la télévision. Et j'espère que cela rapportera un peu d'argent pour aider les enfants qui vivent dans les régions contaminées. L'un des projets de notre fondation, c'est la construction d'hôpitaux indépendants sur le territoire ukrainien, car actuellement, nous avons des problèmes pour diagnostiquer les maladies. Et de nombreuses personnes vivent dans ces zones contaminées, ainsi qu'à Kiev, mais ils ne savent même pas qu'ils sont malades, car en Union soviétique, on manque d'équipements modernes. Avec l'équipement actuel, il est très difficile de dépister à temps les maladies qui se sont déclarées juste après Tchernobyl. Nous espérons que les manifestations d'avril donneront de l'argent qui permettront de construire un hôpital et l'équipement nécessaire. Tous les documents concernant ce projet sont à votre disposition si ça vous intéresse. Le problème de Tchernobyl est intense, plus grave qu'on l'imagine. Chaque jour, on s'aperçoit d'une autre facette du problème. Et vraiment, il n'y a pas un instant à perdre. On a déjà perdu beaucoup de temps. Chaque jour, on peut sauver la vie de jeunes enfants et des gens qui vivent dans cette région contaminée. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose maintenant. Et nous vous serions reconnaissants de nous aider dans notre lutte.
If you don't mind, I will show the film.
Oui, donc, Michel, tu mets en place le film. Auparavant, je voudrais, d'une part...
Après le désastre, les gens ont quitté leur maison. Et ils sont dans un état de faiblesse terrible. Et toute la région a été contaminée après Tchernobyl. Mon enfant est toujours malade, indépendamment des usines chimiques qui sont à proximité de chez nous. Moi aussi, j'ai de graves problèmes, je dois dire, qui m'empêchent parfois de travailler. Et d'ailleurs, pendant un certain temps, on nous avait demandé de rester chez nous, de ne pas sortir. Il y a des sanatoriums, d'ailleurs, autour de la mer Noire. Mais je dois dire que nous n'avons jamais eu la possibilité d'aller nous faire soigner là-bas, ni nous, ni nos enfants. Aucun de nos enfants n'a été envoyé en cure là-bas. Les autorités locales nous ont dit de partir et nous ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi continuez-vous à vivre ici ?» Vous venez, nous ne sommes pas de Tchernobyl même. Oui, nous avons vu des autobus venant de Tchernobyl évacuant des personnes.
It's my son.
Voilà mon fils. Il a souvent des saignements de nez. Et je dois dire que l'État ne nous a fourni aucune aide. Il y a... maintenant, voilà 5 ans qu'a eu lieu la catastrophe. Nous n'avons jamais bénéficié de la moindre aide. Et je dois dire que mon fils a eu des problèmes de santé très graves. Vous le voyez d'ailleurs sur cette photo. Et que vous en dites les médecins? Bon, ils ont fait des analyses sanguines, les médecins, c'est tout. Ils n'ont jamais rien fait d'autre. Et nous ont dit de revenir dans 6 mois pour refaire des analyses de sang. Je m'appelle Lena. Voilà des gens qui ont déménagé de Pripyat, qui ont évacué leur maison. Mais je veux y revenir, c'est ma ville, j'y suis née. C'est là que je veux vivre. C'est là que je suis née. Et vous espérez pouvoir y retourner? Oui, oui, j'y compte bien. Mon enfant est né 2 mois après la tragédie et il a eu des problèmes cutanés et dermatologiques considérables. Il a 4 ans maintenant. et les médecins ne m'ont jamais fourni la moindre aide. J'ai demandé l'aide médicale vu les problèmes de santé qui se posaient à nos enfants. Les syndicats, eux aussi, sont intervenus. Mon fils était très malade quand nous habitions ailleurs avant. Maintenant, sa santé s'est un peu améliorée, mais personne n'a jamais fait de diagnostic précis. Personne ne veut se pencher sur nos problèmes. Nous avons demandé aux médecins de nous envoyer à Kiev pour aller consulter à Kiev, mais personne n'a vraiment voulu s'occuper de nous jusqu'à présent.
Our children.
Vous voyez ici nos enfants au jardin d'enfants. Voilà un jardin d'enfants qui a fait l'objet de tests et de mesures. Et les responsables de Kiev qui étaient venus nous ont dit que le tout était hautement contaminé. Donc voilà nos maisons, nos jardins. On se croirait en plein conte de fées. Nous avons quitté Tchernobyl le 2 mai. Ma fille a été hautement contaminée. Au niveau de la tête et de la colonne vertébrale. Maintenant, elle a 6 ans. Elle a toute une série de problèmes d'ordre neurologique. Et je dois dire que nous n'avons pas de spécialistes sur place qui puissent nous aider. Nous nous sommes adressés à différents services d'urgence, à différents hôpitaux. Personne n'a pu nous aider parce qu'il n'y a pas de toute façon de thérapie, de médicaments appropriés pour faire face à ses troubles. Elle a souffert d'anémie. Entre-temps, il paraît que le problème de l'anémie a été résolu. Entre-temps, elle va mieux. Enfin, c'est ce que me disent les médecins locaux. Ils me disent qu'entre-temps, elle est en pleine santé, que tout est réglé. Avant de déménager, on m'a dit qu'elle était anémique. Maintenant, on ne me dit plus rien. Maintenant, on occulte la vérité. Et d'ailleurs, j'ai dû abandonner entre-temps mes parents, mon père et ma mère. J'essaye d'oublier un peu toutes ces choses terribles. Est-ce que vous aimez les histoires? Oui, il y a des histoires que j'aime bien. Par exemple, celle de Pushkin qui parle de la forêt, des prés, de la nature, des animaux vivant dans cette forêt. Oui, j'aime les poèmes de Pushkin.
Thank you.
Voilà, merci, le film est fini.
Y a-t-il une ou deux questions?
presse d'entrée, si c'est un point presse, parce que ça va être compliqué.
C'est là déjà depuis un petit moment.
Bon. Didier, tu m'excuseras de renchérir sur ce que tu viens de dire, mais je m'adresse.